Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Un débat agite la classe politique, agite les médias, et la commission parlementaire a rendu son rapport le 26 janvier 2010, donc il y a peu de temps, et étrangement, bizarrement, dans toutes les auditions qui ont été faites, aucun vrai sociologue des religions n'a été auditionné, et pas même non plus un représentant des églises catholiques, ce que les évêques s'en sont particulièrement plaints. Donc c'est pour ça qu'il nous intéressait d'avoir le point de vue de Jean-Paul Willem. Jean-Paul Willem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes directeur de l'Institut européen en sciences des religions, autrement dit l'institut donc créé par Régis Debray à la suite de son rapport sur le fait religieux. Et donc il nous importe de savoir un peu quel est votre point de vue sur ce débat d'une part et deuxièmement, que pensez-vous des éléments relatifs à la burqa et ce qu'elle révèle ? Alors, première question, qu'avez-vous pensé de ce débat sur la burqa tel qu'il s'est déployé en France depuis maintenant plus d'un an.
Je m'interroge tout d'abord sur l'existence même de ce débat ou la façon dont il a été enclenché. Car je dis tout de suite, le port de la burqa dans la société française, dans une société démocratique, pose à mon sens problème, car une société démocratique, c'est une société ouverte où il y a des acteurs qui échangent à visage découvert. Et donc, je comprends tout à fait que cette manifestation vestimentaire interpelle. Mais nous sommes sur des sujets extrêmement sensibles. Il est clair que la burqa, plusieurs spécialistes de l'islam l'ont dit, n'est pas une obligation dans la pratique musulmane, mais il y a néanmoins certaines sensibilités qui se disent musulmanes qui revendiquent de porter la burqa. C'est un fait, là je ne porte pas de jugement. Nous avons donc affaire à des questions extrêmement sensibles. Et la question que moi je pose, est-ce que la meilleure façon de les régler, c'est d'en faire un vaste débat médiatique national en visant le vote d'une loi ? Car ce n'est pas parce que ce fait fait problème. D'une part, c'est un phénomène social, je dirais, qui doit être analysé. Entre le corps de la femme voilée, le corps de la femme dénudée, comme si on avait besoin de comportements extrémistes pour afficher telle ou telle identité. Qu'est-ce que ça révèle sur l'état de notre société ? Qu'il est extrêmement important dans ce domaine comme dans d'autres de voir les situations singulières, personnelles, locales. Et mon penchant, ça aurait été de voir s'il n'y avait pas une façon plus terre-à-terre, plus près du local, plus près des réalités, à travers la démocratie locale, à travers des médiateurs culturels et religieux qui auraient pu jouer un rôle positif dans ce domaine. Parce que ça s'est construit comme débat médiatique et national, et même avec des répercussions internationales. Or, et là je parle en sociologue des religions, les identifications religieuses sont des questions sensibles. On touche à des sensibilités. Et lorsqu'on touche à des sensibilités par voie, je dirais, étatique et je dirais même jacobine, est-ce que ce n'est pas, à mon sens, la meilleure façon d'approcher le problème ?
Alors vous dites donc qu'il y a eu une crispation à la fois politique et médiatique sur un vrai sujet qui est celui effectivement du voilement et ou du dévoilement, donc du visage. Est-ce que pour autant vous considérez que ce problème relève du religieux au sens propre du terme ou est-ce qu'il relève de laïcité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il relève du culturel dans une société multiculturelle et donc il faut accepter les gens tels qu'ils sont dans une perspective multiculturelle ou est-ce que la laïcité a son mot à dire sur, effectivement, ces femmes voilées ?
Alors, ma réponse est presque une réponse de Normand et je m'en excuse parce que c'est vrai que ça relève du culturel parce que c'est la manifestation visible de différentes coutumes, traditions et qui se traduisent par des comportements vestimentaires ou alimentaires différents. Ça fait partie de la multiculturalisation de la société française et du seuil d'acceptation de la différence, du non-conformisme, que ce soit encore une fois dans l'excès du dévoilement ou dans l'excès sujet du voilement. Et de toute façon, il y a des limites dans les deux extrêmes. Mais même si une majorité de voix musulmanes nous disent que ce n'est pas une obligation en islam, reste qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y a aussi une dimension religieuse. Car ce n'est pas à la puissance publique de dire c'est religieux ou ce n'est pas religieux. Justement, nous sommes en régime de laïcité. Il se trouve que certaines personnes musulmanes disent que ça fait partie de leur façon de comprendre la fidélité à leur tradition religieuse. Bon, on peut discuter à n'en plus finir sur cette question, mais ce n'est pas à un État laïque de dire ça c'est le bon islam, ça c'est le mauvais islam. Et donc, si on réprouve cette pratique, et je comprends qu'on puisse la réprouver, ça pose un problème, effectivement. À mon sens, il est important de reconnaître aussi que c'est une question qui a des dimensions religieuses, même s'il y a d'autres arguments qui peuvent être avancés pour dire... Parce que j'ai l'impression qu'on se cache un peu, alors on se voile un peu la face, si je puis me permettre, en disant « c'est pas du religieux, parce qu'on ne veut pas avoir l'air d'affronter une des manifestations de l'islam, et donc c'est une façon peut-être un petit peu commode et paresseuse de se débarrasser du problème ». Alors qu'il est évident que ça fait partie d'une affirmation, alors d'un certain radicalisme musulman, il ne faut pas le nier, qui s'exprime à travers cela. Et alors, bien évidemment, d'ailleurs, je dirais la commission parlementaire en a pris implicitement conscience, puisque en provoquant un débat pour le vote éventuel d'une loi, en même temps, on proposait une série de mesures positives pour favoriser l'exercice du culte musulman. Et donc, implicitement, en fait, on reconnaissait qu'il y avait aussi une dimension religieuse.
Mais est-ce que, de façon plus générale, vous ne considérez pas que ce débat, dans peut-être pour partie ses outrances, mais ce débat pose la question, disons, de la compatibilité de l'islam avec peut-être ce qui peut être considéré comme une catholaïcité, enfin une laïcité qui serait plus adaptée à l'origine à la chrétienté et ou au catholicisme qu'à une autre religion, en l'occurrence l'islam.
Ah, je le pense. Il faut quand même se souvenir que dans la vie quotidienne française d'il y a quelques décennies, on voyait des prêtres en soutane et on voyait des bonnes sœurs dans les rues. Alors certes, la comparaison n'est pas raison, elles n'étaient pas voilées, le visage était découvert. Mais il y avait donc une prise en compte d'une certaine visibilisation d'une appartenance religieuse dans l'espace public de la rue et même dans les hôpitaux, etc. Donc alors, évidemment, il y a eu des évolutions. Et à travers ces femmes musulmanes, ça nous renvoie à le fait qu'on veut toujours, on a tendance à réduire en France ce phénomène religieux à un phénomène purement privé. Or, le phénomène religieux, en tant que phénomène social, en tant que phénomène culturel, et même en tant que pratique d'un culte et de différents rites, ne peut pas se réduire à un phénomène privé. Et dire cela, ce n'est pas revenir sur la séparation des églises et de l'État. C'est simplement ce qu'on observe lorsqu'on étudie les phénomènes religieux. Et donc, et là peut-être dans la tradition française, je dirais, on est un petit peu induit en erreur à travers, par exemple, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les opinions même religieuses. Or, la religion ne se réduit pas du tout à une question d'opinion. C'est une mise en forme symbolique de l'existence qui concerne des choses essentielles pour les personnes qui s'identifient à une tradition religieuse. C'est la façon dont ils assument leurs conditions humaines. Et ça se traduit en particulier par une certaine conception des rapports de sexe, des rapports de genre. Ça se traduit aussi par une certaine conception des rapports de filiation, des différentes générations, deux rapports sociaux fondamentaux, toutes les études anthropologiques nous le montrent. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans le cadre ô combien précieux et nécessaire d'une séparation du religieux et du politique qu'il faut pour autant... écraser le religieux et ne pas le prendre en compte comme un phénomène social plus large qu'il faut comprendre pour justement exercer à bon escient la laïcité.
Donc vous vous dites qu'il y a eu des exagérations quant au problème tel qu'il a été exposé dans la sphère publique et médiatique, d'une part, que le problème se pose réellement, qu'il faut considérer donc ce problème de la burqa, non pas du point de vue des femmes, de je ne sais quoi, mais d'un point de vue religieux, et qu'il y aurait peut-être eu d'autres moyens, plus peut-être par médiation ou plus par explication, pour essayer de mieux faire comprendre à ces femmes et à cet environnement extrémiste, pour ceux qui s'en réclament, que cette manière de se montrer en se cachant est incompatible avec les valeurs qui sont effectivement celles de la France, de la laïcité, de l'Europe, enfin quelque chose comme ça.
Vous synthétisez parfaitement bien mon propos et je le dirais de façon plus générale, la liberté religieuse, la liberté de pratiquer un culte est une liberté qui est importante comme d'autres libertés, mais toute liberté aussi importante soit-elle a des limites. Et chaque liberté, d'ailleurs, une liberté limite l'autre. Et donc, ce n'est pas attentatoire à la liberté, alors liberté de conscience, liberté de culte, liberté d'exercice du culte, de faire en sorte qu'il y ait certaines limites, par exemple, dans le domaine pratique vestimentaire. Mais c'est vrai, là, j'ai été particulièrement heurté dans le débat public et médiatique le fait que certains allaient même envisager de légiférer pour le port du costume dans la rue. Alors là, on avait une extension du service public. Et là, je me pose une question que souvent, me semble-t-il, en France, on confond espace public et espace de la régulation étatique. Espace public et institution publique. Or, l'espace public, c'est l'espace de la société civile avec ses associations, ses groupements intermédiaires. Et dans l'espace public, dans l'espace de la rue, c'est aussi l'espace de la société civile avec ses différentes couleurs. Ce qui n'empêche pas des règlements. Les maires interdisent qu'on déambule dans les stations balnéaires. Les maires interdisent que l'on déambule en maillot de bain dans les rues et dans les commerces. Bon, on peut imaginer qu'il y ait, qu'on fasse en sorte que dès qu'il y a interaction, et non seulement par rapport à des institutions publiques, mais même, je dirais, pour des transactions commerciales, ce serait tout à fait normal qu'un commerçant, et il ne peut pas identifier la personne à qui il vend un bien, si elle revient pour le changer, etc., ça lui pose problème, ce serait tout à fait compréhensible. Donc, appréhender, si vous voulez, la question à l'échelle locale, à l'échelle de la vie sociale, sans nier ses dimensions religieuses, mais tout en reconnaissant que la liberté religieuse en démocratie a aussi des limites.
Pour conclure sur ce sujet, est-ce que vous considérez que les différentes affaires, entre guillemets, que nous connaissons depuis quelques années concernant l'islam, c'est-à-dire le foulard, le minaret, la burqa, tous ces débats-là sont exagérés et médiatiques ou qu'ils mettent en évidence quelque chose qui pourrait être considéré comme une inadaptation ou une adaptation difficile ou une adaptation encore à faire. Et je renvoie en particulier à un de vos collègues, M. Portier, qui disait à propos donc de l'islam en France que cet islam souffrait d'un triple déficit, déficit d'organisation, déficit théologique et déficit militant. Vous voyez, cette question, est-ce qu'il y a exagération des débats sur toutes ces questions-là, ou est-ce qu'il y a un effort d'adaptation de l'islam en France qui est encore à faire ?
Il y a incontestablement des efforts d'adaptation qui sont encore à faire, ça me paraît tout à fait clair. Mais en même temps, c'est d'un bon rendement médiatique, incontestablement, et c'est aussi, il y a beaucoup d'instrumentalisation politique, il ne faut pas le nier. Le problème, par exemple, avec le vote du minaret en Suisse, c'est qu'il y a une organisation politique qui, dans le système suisse, a réussi à provoquer une votation sur ce sujet. Et on sait très bien que là, ça touche à des sensibilités et ça réveille des imaginaires. Or, il y a un paysage religieux de la France qui s'est profondément diversifié, en particulier avec l'importance du fait musulman à côté d'autres expressions religieuses. Mais peut-être, et même sans doute, je dirais, dans l'imaginaire national, il y a toujours religion de chez nous, religion étrangère qui joue. Et donc, les perceptions des religions sont entremêlées dans la perception de l'identité nationale. Souvenons-nous, lorsque le président François Mitterrand a fait sa campagne électorale en 1981, il avait une affiche « Force tranquille » avec à l'arrière-plan un clocher pour rassurer, pour se faire le porte-parole de la France profonde. Et donc, l'identité nationale, il y a une monumentalité catholique qui est très, très présente dans le paysage religieux de la France. Et même dans une société assez sécularisée comme la société française, ce sont des dimensions de l'imaginaire national qui continuent à jouer. Et donc, on veut bien accepter une pratique, je dirais, discrète, cachée de l'islam. Dès lors, plus elle se visibilise à travers l'érection d'un minaret, alors déjà les débats autour des constructions de mosquées, mais enfin là, on a avancé, ça se fait, et il y a plusieurs projets qui ont bien avancé. Mais alors, érection d'un minaret, ça visibilise, ça augmente encore plus la visibilité sociale de l'islam, et on voit monter des résistances. Ça engage, si vous voulez, une réflexion collective sur, en fin de compte, ce qu'est l'identité nationale française à travers la configuration de son paysage architectural et en particulier religieux.
Mais pour finir, ça pourrait laisser supposer deux choses. Soit que la laïcité, pour ne parler que de la France, à la française, accepte une dose de visibilité, ce qu'elle a du mal à accepter, ou que, inversement, dans l'islam, la visibilité, elle, culturelle et ou religieuse, soit moins forte. Vous voyez, quelle est l'adaptation de l'un, la laïcité, ou de l'islam, que l'un ou l'autre doit ou devrait faire ?
Mais c'est justement, vous dessinez exactement la façon dont ça doit se faire pour établir ce qu'on peut appeler un accommodement raisonnable entre les prescriptions d'une pratique religieuse et ce qui est compatible avec une vie démocratique dans l'espace de la République. Et donc là, il y a une transaction à faire, mais une transaction ne peut se faire que si il y a des dialogues et dans un respect mutuel et dans une reconnaissance mutuelle. Et c'est ça qui me semble important. Et là, on bute peut-être sur une limite de la laïcité française qui, sous prétexte qu'elle ne reconnaît aucun culte, a peut-être du mal à reconnaître les religions comme phénomène social et culturel. Je ne parle pas d'une reconnaissance juridique, je parle d'une reconnaissance comme phénomène social et culturel. Et certains confondent la non-reconnaissance juridique des cultes avec une non-prise en compte de la religion comme phénomène social et culturel.
Monsieur Jean-Paul Willem, merci. Et je renvoie donc nos auditeurs à votre dernier livre, Le retour du religieux dans la sphère publique, qui est paru aux éditions Olivetan. Merci.
Merci.